Oui, je souscris tout à fait à ce que vient de dire M. Verne, mais je voudrais y rajouter quand même, pas un bémol, un dièse, puisque le dièse est au-dessus. C'est que non seulement il faut être, comment dire, il faut avoir de l'empathie, de l'écoute, mais ça ne suffit pas. Et ce que je reproche un peu aux ingénieurs, c'est qu'ils ont une rigueur, ils ont une approche mathématique, la résistance des matériaux, la résistance électrique, voire même l'amortissement financier, c'est calculé au poil près, c'est impressionnant de rigueur. Mais dès qu'on parle construction sociale, la rigueur s'effondre pour avoir des réflexes de cours de récré. Et on manque de compétences psychosociaux à ce niveau-là. Un organigramme, ça n'est pas sans conséquences. Et ce n'est pas parce que vous offrez une tasse de thé de temps en temps qu'un organigramme mal construit ne sera pas pathogène. Et regardez, c'est encore paru à la télé il n'y a pas longtemps, l'expérience des migrammes, qui montre que les trois quarts des gens, y compris nous, on électrocute le voisin gentiment. Je ne vais pas détailler cette expérience, vous la connaissez tous. Ou l'expérience des Zimbado, vous chercherez dans les littératures, où on s'aperçoit que des gentils étudiants fracassent gentiment leurs collègues avec lesquels ils bisouillaient trois jours avant, quoi. Le jeu de rôle, la structure ont une importance beaucoup plus importante. On met trop en avant le comportement, le psychisme, la personne. Et encore la personne, l'individu. La personne, c'est la persona, le masque en grec. Hein. Et il y a un problème de culture de nos ingénieurs. Parce qu'on a tout fait dans le mathématique, on a donné le pouvoir aux mathématiciens. Mais sauf que ça ne fonctionne pas avec le même système. Une information sur l'autre versant qu'abordait monsieur avec justesse, c'est que ça a un coût économique qui est évalué par le BIT à 3% du PIB. C'est considérable, c'est des milliards d'euros. Et des milliards d'euros qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle. Donc que nous payons tous en assurance maladie, puisque ce n'est pas pris en charge par la branche AT qui est abondée par les cotisations des entreprises. Ça, c'est une évaluation qui a quelques années maintenant. Mais récemment, il vient de sortir le rapport IRES, financé par la Commission européenne, patronné par Kieselbach, qui démontre que à peu près 30 à 40% des fusions restructurations sont des impasses économiques, par les répercussions de distorsions de fonctionnement, le coût de santé des rescapés, le coût de santé des gens qui sont virés et ce que ça donne dans la société, etc., etc. Je vous invite à regarder ce rapport. Il date de 15 jours.
Bon, le rythme s'accélère. Ce que je vais proposer, c'est de prendre trois questions et ensuite les orateurs répondront.
Maryse Dubouloy, professeure à l'ESSEC et psychanalyste. J'ai dernièrement fait une étude avec des collègues de l'Université de Savoie sur la thématique les difficultés des cadres. Et en fait, il est ressorti de cette étude qu'il y avait un glissement qui se faisait extrêmement rapidement entre avoir des difficultés, qui est par définition pratiquement le métier du cadre et du manager en particulier, à être en difficulté, c'est-à-dire l'idée qui a été évoquée à plusieurs reprises sur un environnement sur lequel ils n'ont absolument plus de prise et dans lequel ils se sentent sombrés et pas simplement un environnement humain. Donc j'aimerais bien avoir des échos de votre part sur le sujet puisque chacun l'avait abordé à votre façon.
Alors on laisse les orateurs réfléchir à la réponse. Et monsieur devant.
Monsieur Golias, administrateur d'une grande société aéroportuaire. Je siège au conseil d'administration, donc je vois l'entreprise en réel. À l'heure actuelle, on ne va pas se voiler la face. Le stress au travail, nous, on le connaît. En tant que salarié, on sait ce que c'est. Nos collègues cadres, on sait ce qui se passe. À l'heure actuelle, vous avez quand même beaucoup de sociétés où on a des plaintes pour harcèlement. Dans notre société, on a des suicides. Donc ce n'est pas un état de fait. À l'heure actuelle, on le sait, c'est directement lié à la productivité des entreprises. La productivité qu'on nous demande de plus 3% par an sur le long terme, on sait les organisations de travail que ça rejoint derrière ou que ça se transforme. Et comme le nerf de la guerre à l'heure actuelle, c'est fabriquer toujours plus et d'aller plus vite, bah, la plupart de nos collègues, c'est clair, cadre ou non cadre, ils n'arrivent plus à assumer leur mission. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il est là. Quand vous demandez aux gens de produire tous les 3 ans 10% de plus, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Ça, c'est la réalité. Alors, bien sûr, on a vu se mettre en place les fameux accords stress. Il faut être clair, hein. Je pense que ça va se finir avec des accords vitrines pour donner une bonne image à nos entreprises avec absolument rien dedans. C'est ce que je vois se dessiner hein, à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Hein. C'est pour simplement se donner de la bonne conscience. Donc moi, ce que je suis venu chercher là ce soir, c'est réellement des pistes de réflexion de façon à faire en sorte que dans nos accords, il n'y ait pas n'importe quoi, mais qu'on ait un guide, qu'on ait des pistes de réflexion. C'est ce que je suis venu chercher. À l'heure actuelle, plus on attend, plus j'ai des collègues qui sautent par la fenêtre. Et c'est toutes entreprises confondues. Vous avez cité quelques grandes entreprises qui avaient peut-être quelques pistes. Il serait bien de le diffuser largement dans la presse. À l'heure actuelle, là, on le voit bien, les entreprises qui participent à ça, elles sont extrêmement minoritaires. Les grands donneurs de rendre en France, c'est quoi ? C'est en quelque sorte le SBF 120 ou le SBF 250. Une fois que vous avez ces 200 grandes entreprises avec tous leurs sous-traitants derrière, on aura une réelle impulsion. À l'heure actuelle, donnez-nous des pistes, donnez-nous des réflexions que vous avez déjà portées et faites-les porter dans la presse pour pas qu'on ait des accords sur le stress avec rien dedans. Parce que là, ça va se finir juste comme ça.
Je suis la présidente d'une société de services informatiques, André Migy, avec lequel je travaille avec la BPCE. J'ai quand même une notion un peu différente de ce qui est dit par rapport surtout à l'industrie, étant donné que je suis spécialisée dans la banque. Et je serais un petit peu mitigée dans le fait que l'individu, certes, est responsable dans ce genre de situation, puisqu'il y a une mauvaise communication. Mais je constate quand même, étant présidente, mais en même temps gérante d'une structure, en étant moi-même et commerciale et m'occupant des équipes, je constate dans la communication un effet inverse et pervers d'une certaine façon de travailler. Je m'explique. Avant, on parlait beaucoup de la communication, on parlait beaucoup des gens en leur donnant les éléments pour communiquer. Donc on envoie les encadrants en formation dans des grandes entreprises qui expliquent comment on va aborder les gens, comment on va essayer de traiter le problème, comment on gère le stress, etc. Or, il se trouve qu'on arrive à l'effet inverse, ce que je trouve depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que mis dans les mains de certaines personnes qui n'ont qu'un but, c'est justement d'évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise, utilisent ce genre de situation, la retourner, la manipuler, comme disait Marie-France Irigoyenne, pour que justement la personne se situe dans une situation de harcèlement, de difficulté. Vous avez des grandes entreprises, moi je connais la vôtre, la BPCE, c'est des très belles entreprises. C'est des gens où il y a des gens très compétents, où il y a des gens qui travaillent magnifiquement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est confronté à ce genre de relation qui est assez difficile à enrayer. Parce que quand vous avez un patron, vous avez un chef d'équipe qui s'arrange pour que justement tout soit à son profit, pour justement évoluer hiérarchiquement, qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa propre équipe ? Il écrabouille tout le monde, excusez-moi du terme, c'est un peu ça. Donc il y a un sens du travail dans certains qui est un peu difficile à appréhender, mais il y a aussi un encadrement qui est prêt à tous les niveaux pour pouvoir accéder au poste supérieur. Et je termine en rajoutant une chose, je travaille pour vous à l'heure actuelle justement sur ces problèmes. J'aimerais bien en discuter avec M. Vergne après, puisqu'on est confronté à la situation difficile de savoir comment gérer justement les problèmes sans être coincés par des gens qui veulent garder le pouvoir et qui ont la difficulté d'exprimer un petit peu ce qu'ils veulent, étant donné que ça met en cause pas mal de choses dans leur activité.
Ce dernier point met l'accent sur un aspect qu'on a évoqué dans la présentation et sur lequel j'ai vu des publications à propos de grandes entreprises comme France Télécom, le rôle de l'encadrement de proximité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire des grandes politiques, ce n'est pas seulement les DRH qui ont un rôle important à jouer, mais beaucoup de choses se jouent dans la proximité et l'encadrement de proximité peut avoir un rôle extrêmement important, favorable ou défavorable, et je serais curieux de savoir comment on s'en soucie. Voilà, ça fait plusieurs questions.
Oui. Bon, si vous voulez, comme il y en a une qui m'était adressée, moi je ne vais pas rentrer, madame, dans une polémique ou régler des problèmes de mon groupe avec ses fournisseurs, mais je le dis comme je le pense. Hein, je suis à peu près sûr que dans les endroits de la maison, malgré la présence de syndicalistes brillants et qui sont là et vigilants, il y a bien des gens qui abusent de leur situation de pouvoir, qui font du harcèlement, qui sont pervers. Ça existe. Et il y en aura malheureusement malgré tous les efforts qu'on peut faire. Alors, on peut mettre en place des outils, on peut former les personnes. Bon, on va limiter. C'est ça, je crois, qu'il faut faire. On va améliorer. On va créer l'ambiance, on va créer du sens. Mais on n'aura pas réglé, loin de là, tous les problèmes. On retrouvera toujours. Et moi, je prends en compte ça. Hein. Alors, rassurez-vous. Vous le savez, quand même, un groupe qui est un groupe coopératif, mutualiste, qui fonctionne sur l'économie sociale, malheureusement, on le voit, n'a pas les mêmes performances financières et économiques que ses concurrents directs de l'économie dite capitaliste. On le voit bien en termes de rentabilité, en termes de performance et malheureusement en termes de résultats financiers. Bon, certains même à l'intérieur disent qu'on est un peu trop inondé caisse des dépôts et un peu d'entreprises qui, pendant des années, ont été comme les caisses d'épargne, non pas des banques, un concurrentiel, mais plutôt à la fois un récepteur des économies, que les grands-mères, à chaque naissance d'un petit enfant, faisaient un livret A et allaient placer l'argent. Bon. Donc il n'y avait pas ce problème, qui est nouveau d'ailleurs, je tiens à le dire. Il est nouveau parce que depuis 10-12 ans que c'est transformé en banque, dans un système concurrentiel, je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, ça a généré un changement aux collaborateurs à la fois de culture, de fonction, d'action, de mission. Il ne faut pas le laisser de côté. On ne passe pas d'un système qui est quand même protégé, n'ayons pas parlé du terme, à un système totalement concurrentiel, sans avoir un impact, si vous voulez, par la dimension, heureusement, ça a été bien fait, bien géré, d'autres groupes dont vous avez cité le nom tout à l'heure, où le changement d'activité a été un parmi les autres des facteurs, mais il faut être conscient de ça. Alors, bon, moi, rien n'est parfait, mais j'ai la conviction qu'il faut continuer, et surtout, dans ce domaine, il faut agir. Parce que c'est bien de dire, Yaka, Faucon et tout, mais il faut agir. Bon, moi, j'ai le mauvais rôle là, je fais partie des employeurs, et on est là, on doit agir. Je ne peux pas, malheureusement, donner des conseils ou écrire un livre pour dire ce qu'il faudrait faire. Mais il faut faire. Et moi, je crois beaucoup à l'action dans ce domaine. Si on ne fait rien, je suis sûr, ce sera la cata. Donc, il faut agir. On le fera gauchement. Des fois, on fera des bêtises. Ben, ce ne sera pas parfait. Les formations, comme vous l'avez dit, sont déroutées par les pervers. Il y en aura. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter la formation. Non, mais ben, bon. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Excusez-moi.
Je voudrais dire deux choses sur les difficultés dans une grande entreprise à amorcer les choses, à faire évoluer positivement. Je ne suis pas sûr que ce soit à coup de recettes qui viennent de l'extérieur. Je ne néglige pas les recettes qui viennent de l'extérieur pour faire fonctionner notre groupe. On regarde beaucoup ce qui se passe au Canada. Bon, j'expliquerai tout à l'heure en un mot pourquoi Canada. Mais l'essentiel, c'est le travail que fait l'entreprise sur elle-même. C'est ce qui peut se déclencher en travaillant ensemble de bonne foi pour essayer de bien traiter les problèmes. Maintenant, en ce qui concerne les responsables de proximité, ça, je crois que c'est un problème très sérieux que l'évolution d'organisation nous conduit peut-être depuis un certain temps à plus faire suffisamment attention à leur rôle et à la façon de les former et de les soutenir. C'est nécessaire surtout dans des grands groupes. Dans les PME, le problème se pose beaucoup moins. Il n'y a pas de gens au placard, il n'y a pas de... Il y a élimination ou promotion, ou etc. Les problèmes que l'on a souvent sont en partie des problèmes de grands groupes, où les problèmes, on ne sait pas les résoudre d'une façon brutale, alors que dans beaucoup de PME, ils se résolvent de façon brutale. Mais je ne mets pas en idéal de résoudre les problèmes de façon brutale. Je dis qu'il faut travailler la question. Et dans les grands groupes, enfin, dès que la population d'une entreprise augmente, il n'y a pas de doute qu'il y a une attention particulière à porter au management de proximité, à la façon de le soutenir et de lui faire pallier, empêcher toute dérive. Voilà.
Oui, je voudrais compléter mon approche les trois questions. Sur la difficulté des cadres et la cadre en difficulté, je partage tout à fait et je vous invite à regarder les résultats des enquêtes qu'on fait tous les 6 mois sur le site de la CFE-CGC. Vous verrez que l'anomie, la perte de sens, concerne 50% des gens. C'est considérable. Si c'était une fois, au début, on n'osait pas le publier en se disant, bon, ben, il n'y a que les... On va dire ces trucs de syndicalisme. Alors on l'a fait faire par des sondeurs officiels, on l'a fait faire par la Sofres, puis maintenant par un autre. Et ça donne les mêmes résultats. Et on en est à la 14e version, ça ne s'arrange pas. Donc l'anomie est quelque chose de lourd et de présent, et c'est logique. Les encadrants n'ont pas été formés à la situation qu'ils rencontrent d'aujourd'hui. Au sujet de donnez-nous des pistes, c'est bien ce que j'ai donné, je vous invite là aussi à aller sur le site, vous verrez, on a fait des bandes dessinées, il suffit de les importer, je n'ai pas pris de copyright. On a fait 3 bandes dessinées sur la situation des cadres en entreprise, qui rencontrent le stress, comment ils réagissent et comment sortir de l'assistance un petit peu accompagnante, mais sans réflexion pour aider les gens et sans réflexion pour tirer la leçon pour le groupe. Je vous invite à y aller, à les prendre. Au sujet de l'encadrement de proximité, je peux aller que dans ce sens-là. Il y a la CFE-CGC, on en entend souvent parler, mais on entend souvent les cadres de proximité déplorer le fait que leur direction ne leur donne pas la place qu'ils pensent devoir avoir, et qui disent que ça va faire problème. Et effectivement, ça fait problème. Et bon, je suis heureux de voir qu'il faudrait les revitaliser, les réactiver. Je comprends fort bien. Maintenant, penser que dans l'entreprise, excusez-moi, Président, l'émergence spontanée des solutions, si ça marchait, ça serait déjà fait. Je crois que là, il y a l'émergence du besoin d'une autre compétence que nos dirigeants, que nos ingénieurs, tous aussi brillants, la Claude, que nos financiers, que même les médecins. Moi, je n'ai pas appris le stress dans mes études dans les années 70. C'est dans la rencontre et puis après en travaillant sur le sujet. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, M. Vergne, tous les médecins du travail ont découvert le problème et l'ont approfondi, plus ou moins, parce que ce n'était pas enseigné dans les années 70, ça c'est clair. Mais maintenant, il y a de plus en plus de techniques et de réflexions qui arrivent à une certaine opérationnalité qui devrait rentrer dans les entreprises.